L'émission jazz d'Aligre FM. Sur Aligre FM avec Lionel Eskenazi.
Will you be always this lonely till you told me you all felt behind? You never know what's gonna happen to you. How you felt with your loved one behind? How the women raised you were kind. How they felt when you left them behind. You left your home. You left your home. You left your home. You left your home. You Will you be always this angry? Never know if you could come back one day. How you felt to be raised far away? How you felt with your loved one behind? How the women
bonjour, bienvenue sur Aligre FM dans l'émission Jazzland. J'ai l'honneur de vous présenter mes deux invités. Alors tout d'abord, Hugh Coltman.
Bonsoir.
Bonsoir, qui a sorti un album qui s'appelle Good Grief. Grief, on dit grief. Hein.
Oui.
Ouais, non, bah c'est faut, j'ai un anglais à côté de moi, donc il faut que je fasse attention à mon accent. Good Grief qui est sorti fin août.
C'est ça, ouais.
Mais c'était avant-hier, quoi. Et chez Sony Music, hein, un gros label, hein. Attention, ça rigole pas chez Hugh Coltman. Et puis, il a plein de concerts en février, mais il nous racontera ça tout à l'heure, puisqu'on va consacrer la deuxième partie de l'émission à la sortie de cet album. Et je vous présente ma première invitée, Sarah Lenkart.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à Aligre FM.
Merci.
Alors, vous avez sorti un album qui s'appelle Isha.
Oh.
Alors, je précise que Isha, ça veut dire femme en hébreu. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Et mais comme toujours, vous êtes, on vous parlait toujours des femmes. Hein, c'est votre truc et c'est très bien. Continuez à parler des
c'est
femmes.
C'est ça, c'est mon fil conducteur.
C'est votre fil conducteur parce que c'est votre cinquième album. Alors peut-être que les deux premiers étaient plus sur des standards. Enfin.
Mais quand même axé.
Oui,
sur
c'est des standards qu'on chantait des femmes. De
exactement
toute façon.
Sur
et
les
c'est,
paroles.
Et c'est
aussi.
Vrai que ceux qui sont venus après. Il y a eu un hommage à Bessie Smith, il y a eu plein de choses sur les femmes. Et donc là on va en parler précisément, mais on vient d'entendre un extrait là à l'instant. Donc je voudrais qu'on parle déjà de ce morceau, puisqu'il vient de passer à l'antenne, qui s'appelle « Woman Who Raised You », qui ouvre l'album. Alors de quoi parle cette chanson « Woman Who Raised You » ?
En fait, ça, c'est une chanson qui m'est venue après une discussion avec une de mes tantes où je lui racontais que j'étais en train d'écrire cet album sur leur exil et sur une scène surtout dont ils n'ont jamais parlé en fait quand ils ont dû quitter l'Algérie. Et donc ma tante, elle a presque 80 ans aujourd'hui, enfin un peu moins quand même. Et je lui demande son ressenti, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, elle me répond pas là-dessus. Elle me répond sur ce qui lui reste à elle 70 ans après. Et elle me dit, en fait, c'est la tristesse qu'elle a eue de laisser les femmes qui l'ont élevée derrière elle.
Ah, d'accord.
Voilà. Ouais, donc, j'ai écrit cette chanson là-dessus, sur ses enfants qui ont été basculés et comment... voilà.
Oui, parce qu'on parle de l'exil quand même dans ce disque. Hein. L'exil d'une famille juive pied-noir d'Algérie qui donc a dû quitter ce pays. Et puis s'éparpiller, pas forcément en France d'ailleurs, un peu partout dans votre famille, non ?
Non.
Principalement en France, d'accord.
Ouais, c'était. En fait, c'était vraiment des indigènes israélites, en fait.
Oui.
Donc voilà, c'était pas des Français.
Donc en fait, ça parle de l'exil, mais ça parle surtout du déracinement, parce que c'est pas évident de changer de pays comme ça. C'est pas pareil, hein, quand même.
Non, ça parle du déracinement, de l'exil, et surtout de ces destins de femmes dont même à l'intérieur des familles, on parle pas, et à quel point, finalement, elles sont invisibilisées. Et je parle après de l'autre partie, qui est la partie de ma génération, qui est cette éducation en tant qu'enfant d'exilé aussi.
Voilà. Oui, bien sûr. Donc ça rebondit. Mais c'est très intéressant. Alors, il y a plein de membres de votre famille. Il y a votre grand-mère, il y a des tantes. Alors, il y a beaucoup de prénoms d'ailleurs dans les titres des morceaux.
Chaque prénom, c'est un peu inspiré de la vie d'une femme, cette famille. Enfin, des deux familles. Hein. Voilà.
Oui, parce que du coup, ça s'est passé des deux côtés de votre famille. Ah, oui.
Personne n'a été épargné.
Ben oui, personne n'est pas. Alors peut-être on va écouter un deuxième extrait de cet album. Il s'agit du titre éponyme qui s'appelle donc Isha. Alors peut-être vous pouvez nous parler de la chanson avant qu'on l'écoute.
Isha, c'est un petit peu différent en fait. Isha, je parle un peu de toutes ces générations qui n'ont pas eu le choix de s'exprimer. Et plus les générations, enfin, on arrive à la mienne ou encore celle d'après, il y a quelque chose qui arrive et qui se délie en fait de ce regard qu'elles ont eu, en tout cas autour du fait d'être femme, du patriarcat là-bas, et de ne pas s'être autorisée à tout ça. Et au fur et à mesure de la chanson, au début c'est narratif, et puis à la fin c'est aussi des générations qui finissent par aussi célébrer un peu tout ça.
Célébrer, parce que moi j'ai vu un clip, parce que vous avez fait un clip, d'ailleurs Hugh Coltman aussi a fait un très beau clip, on en parlera tout à l'heure. Ça revient à la mode les clips, c'est bien, tant mieux. Moi je sais que dans ma jeunesse c'était la grande mode des clips, MTV, tout ça, Michael Jackson et compagnie. Et ben je vois que non, c'est bien parce que votre clip il est très beau, il est très beau et il est très joyeux. Parce que il y a tout. Alors je raconte un peu le clip.
Ah bah plaisir, allez-y.
Non, parce que ça m'a ému en fait. Il y a plusieurs femmes de plusieurs générations comme ça qui dansent, qui font la fête ensemble et qui dansent et qui se réunissent. Et il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et voilà, je suis presque ému en parlant.
Bon, merci.
C'est qui l'a réalisé ce clip ?
C'est quelqu'un que tu connais très bien aussi, il s'appelle Martin Sarrazac.
Mmh. Ah bah oui, je le connais, Martin. Ouais. Bah oui,
et il a fait...
ça ne m'étonne pas parce qu'il est doué. Oui, c'est le compagnon de Marion Rampal, d'ailleurs.
Je sais. Toutes les vidéos de Isha, en fait. J'en ai fait trois et c'est lui.
Ah d'accord. Ouais. Bah non, mais franchement, et l'idée de c'est vous qui avez eu l'idée, Sarah. Oui, vous lui avez donné un petit fil conducteur, un petit scénario.
J'arrive avec effectivement un brief, des idées, de quoi parle la chanson. Après, c'est un échange déjà. Mais le lieu... les femmes, etc. Et après, lui, il rend tout ça assez magique et majestueux. Mais oui, c'était mon idée d'avoir toutes ces femmes et la dernière qui est une danseuse qui vient, qui est la dernière génération, qui vient insuffler un mouvement en fait à travers quelque chose qui est très figé dans chaque génération. Et finalement, en déridant un peu tout ça, toutes ces femmes, elles se rejoignent. Voilà. Et c'est ça qui est chouette.
Alors c'est dans une cour d'imam, mais ça pourrait être en Algérie. Hein.
En fait, c'est fait très méditerranéen. C'est le Patio de la Roche.
Ah bah oui, Valérie Mauge. Voilà. Ah bah oui, bien sûr.
Et le
ah c'est là,
est...
d'accord.
Ouais, j'ai joué cet été.
Mais oui, mais d'accord, parce que je me disais, ça me dit quelque chose. Moi, je suis jamais allé, mais j'avais vu des visuels
c'est
de l'endroit. Bah, il paraît, oui.
Et c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu, ouais.
Donc c'est à côté de Poitiers, hein, c'est ça,
Angoulême.
Angoulême, pardon.
Mais
Angoulême,
on n'a pas l'impression d'y être. Moi.
Oui, oui, ben en fait il y a ce côté méditerranéen.
Bah ouais, il y a un grand palmier, c'est les patios à l'ancienne, donc.
Et ben on écoute tout de suite Isha, c'est parti.
You drive her crazy, you drive us crazy. Why don't you want us tonight? You told you to go. And why don't you understand that it was hard to see you go? Please, please, please look at us with truth and hold and easy to weep. Look at us now, look at us now. Look right through you and look right through her. And why don't you realize how hard it was to see you go? Why don't you understand that it was hard? Look at us, look at us now, look at us. One day you'll have to look at us now, look at us now. To write for her and to write for us. And why don't you realize how hard it was to see you go? So rise, she rised, and pray, she prayed, just waited for her lonely face. But rise, rise. Look at us now, look at us. Look at us, look at us. One day you'll have to look at us, look at us now.
FM et sur le site internet d'Aligre FM.
Voilà, on vient d'entendre Isha, qui est le titre éponyme de l'album de Sarah Alenka, et elle avait l'air de prendre beaucoup de plaisir à se réécouter. Et ça, c'est rare. En général, les musiciens ou les chanteurs, ils n'aiment pas trop.
Ouais,
et c'est
vrai.
Et ben, c'est bon signe,
mais
ça.
C'est parce qu'en fait, je parlais avec Hugh de comment ça s'est passé, l'enregistrement,
oui.
Et ça a été un moment très humain. En tout cas, je garderai... vraiment le chemin de l'enregistrement de cet album, ce qui n'est pas le cas dans mes autres albums. Ouais.
Alors justement, on va citer le nom des musiciens qui vous accompagnent, parce qu'il y a des musiciens qui jouent aussi avec Hugh, et du coup c'était intéressant de vous inviter ensemble, parce que là il y a un point commun.
Bah, alors, je vais commencer par celui qui est notre point commun principal, qui est Raphaël Chassin. J'avais demandé de faire la DA du disque et de jouer dessus.
Donc la DA, je précise, sa direction artistique.
Voilà, alors en fait, il a fait des prises de son, il a fait des arrangements. Vraiment, il y avait une recherche de son assez importante. Et puis, il a fait toutes les batteries, les percussions.
Super batteur. Hein.
Bah, voilà,
donc, c'est le batteur de Hugh. Depuis combien de temps, c'est votre batteur, Hugh?
Il veut bien jouer avec moi depuis 15 ans. Quoi.
Ouais, c'est donc, ça, c'est une longue histoire. Ouais. Mais il amène un groove incroyable. Là, sur le Hugh avait fait un projet sur Dr. John il y a quelques années. Et là, il amenait quelque chose. Là. Il avait bien compris toute cette musique.
Il était
musique.
Aussi DA là-dessus.
Ouais. Il amenait des couleurs. Ouais,
aussi,
c'est ça. Parce que ce sont
Karl Janouchka, le
voilà,
batteur
principal. Il y avait une batterie. Lui, il faisait plus les percus. Il y avait un vrai habillage rythmique incroyable.
Il tape sur tout ce qui est... Il y a un moment sur le disque, on l'entend, une espèce de... Crrrrng, et c'était un radiateur à côté. Sur lequel il avait envie de taper. Mais c'est vraiment, il est fabuleux pour ça.
Ouais.
Alors, sur quelques titres, il y a un bassiste qui est Laurent Werneret, qui est aussi le bassiste de Hugh Coltmann, mais il joue que sur quelques titres.
Voilà, ouais. C'était pour le disque, en fait. C'est Raph qui lui a demandé, et c'est vrai que ça a amené une super belle couleur, et donc j'étais...
C'est un super contrebassiste aussi. Hein, Puis avec Raphaël, ça marche, ils se connaissent bien, hein, ça match, comme on dit. Et alors, il y a deux guitaristes, alors vous allez nous donner ça en détail, parce que c'est très important, parce qu'ils ont deux rôles très très différents. Hein.
C'est vrai que j'ai construit l'album, toutes les compos, surtout autour des chœurs, voix, chœurs et des guitaristes. Il y a Laurent Guillet, en fait, avec qui j'ai fait toute la partie compo.
Donc vous avez composé ensemble, c'est ça.
Et lui, il fait de la guitare folk.
Donc avec des cordes en métal, je précise.
Voilà,
mais il faut bien dire.
C'est vraiment la folk européenne, on va dire.
Et puis de temps en temps, de la guitare électrique, très peu.
Sur une chanson, mais sur scène, pas du tout.
Et
sur scène, c'est que folk.
Je précise bien que c'est des cordes métalliques, puisque le deuxième guitariste, lui, joue sur des cordes en nylon. Et c'est ce qu'on appelle la guitare classique.
Deux instruments.
Et puis il fait un deuxième instrument.
C'est Laurent Guillet, c'est le premier. Le deuxième, c'est Taoufik Farah. Et lui, c'est vraiment la folk du désert, en fait.
On va dire ça.
Il fait de la folk, la guitare nylon et du mandol.
C'est la différence entre le mandol et le oud, c'est très proche quand même, non?
C'est proche, mais c'est encore différent.
Ouais.
Le mandol, c'est un instrument algérien, kabyle.
Ouais, c'est typiquement d'Algérie.
Le manche est encore différent. Je pense que l'accordage est différent.
C'est des cousins.
Oui, voilà, c'est pas si éloigné, en tout cas.
Mais ça donne cette couleur orientale au disque qui est très importante dans votre disque.
Ouais, c'est venu naturellement aussi, c'est pas prévu au départ.
On parle de ce déracinement de cette terre d'Algérie, et donc c'est vrai que c'était important d'avoir un instrument qui évoque ça.
Il est venu au fur et à mesure du travail. Voilà, un jour, il y a Raphaël qui a dit à Tao, mais t'as pas un mandol, toi? Et puis c'est parti comme ça, et c'est devenu l'instrument presque principal du disque et sur scène aussi.
Donc, sur scène,
coup, ça a fait sens.
C'est marrant, les chansons ne sont pas commencées comme ça.
Non.
C'est marrant, ça.
C'est vrai que c'est souvent... Ouais, elles ne commencent pas avec le mandol.
Non, mais pas forcément le mandol, mais ce vibe un peu... inspiré vachement de cette musique... on va dire world, mais vous voyez
ce que je veux dire. Ouais, parce que c'est arrivé... Je pense que ça s'est arrivé pendant la création.
C'est joli, ça.
Alors justement, Hugh, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de Sarah Alenka? C'est très différent de ce que vous faites, mais voilà. C'est de la voix, quand même.
Plein de choses. Ça n'arrêtait pas du tout inconnu à mes oreilles.
Ouais.
Et quand j'ai su que Raphaël allait réaliser un disque avec elle, j'étais très intéressé d'entendre le résultat. Je trouvais c'est super, vraiment. Encore une fois, je trouve que le travail de voix, elle est vraiment sublime, quoi.
Ouais, merci.
Il y a vraiment une espèce de côté, comme vous disiez tout à l'heure, très naturel, très, pas parlé, mais très proche à l'oreille. Oui, c'est vraiment chouette, quoi.
Ah, merci, hein, venant de votre part, ça fait très plaisir.
Non, mais j'ai la chance d'avoir quand même deux super vocalistes très différents et voilà, qui comptent aujourd'hui dans ce petit monde du jazz. Je dis le jazz au sens large, puisque aussi bien l'album de Hugh que l'album de Sarah, c'est pas très jazz, mais on s'en fiche. Voilà, on en a marre de coller des étiquettes, hein, ça suffit. Hein. Ouais. Décloisonnons tout ça et faisons de la musique.
Un peu d'air.
Ah bah moi, je suis vraiment un adepte de ça. Alors vous, la plupart des chansons, sauf une, si j'ai bien écouté, sont toutes en anglais. Et alors, pourquoi ce choix de chanter en anglais sur ce projet qui, du coup, est pas très... Alors, quand vous reprenez des chansons de Bessie Smith, de Billie Holiday, on peut comprendre que ce soit en anglais. Mmh. Vous avez chanté beaucoup de standards. Je m'en rappelle, moi, je vous ai découvert, d'ailleurs, avec une reprise de Portishead, d'un morceau qui s'appelait Glory Box.
Ouais.
Ben oui, c'était vos débuts, mais j'avais adoré cette reprise parce que j'adorais Portishead. Il se trouve que, voilà, en plus, c'est Bristol, c'est votre ville, ça, Bristol, You Cult Man, c'est un groupe de Bristol, hein, c'est intéressant, ouais. C'est votre ville natale. Et j'avais adoré, donc tout ça c'est en anglais, c'est logique. Mais là, pourquoi l'anglais ?
Ben, je pense que l'anglais c'est plus une langue que j'utilise naturellement.
Oui, c'est ça, ça vous vient.
J'ai une culture, j'ai pas une culture musicale française
d'accord,
du tout.
Ouais,
j'ai fait mes études en Angleterre, je suis restée longtemps. J'ai baigné ailleurs que dans la culture française et je pense que, en tout cas, c'est pas que j'ai pas envie, mais pour l'instant, c'est pas mon.
Ouais. Et pas donc, mon sur vecteur. Ce projet-là, ça vous dérangeait pas du coup ? Parce que c'est naturel.
Je pense que ça va aussi avec un style de musique, la couleur de la langue.
Puis vous écrivez les paroles en anglais plus facilement, peut-être aussi.
J'ai l'impression, peut-être que.
Mais du coup, ça, vous avez une compatriote, Hugh, mais en fait.
C'est marrant parce qu'il y a des moments où je me dis, ça fait quand même 24 ans que je suis en France, et même si sur le disque, il y a deux disques qui s'appellent Who's Happy, il y a une chanson où je chante en français que j'avais composée. Je parlais avec quelqu'un de ça très récemment, un ami qui est un peu poète, et je lui ai dit, mais je trouve que même si j'aimerais bien écrire en français, j'ai pas le tact. C'est pas tactile pour moi la langue. J'arrive à le parler, j'arrive à m'exprimer.
Ouais, bien sûr, ouais.
Mais en fait, je sens. Quand j'écris en anglais, parfois, ce sont des images ou parfois, c'est même des couleurs, des mots qui vont ensemble qui me touchent, qui m'inspirent pas la suite, du coup. Mais j'ai pas ça en français. Pour moi, le français, c'est une langue qui me permet à vivre, à communiquer. C'est un peu les boulons linguistiques que j'utilise, c'est les engrenages que j'utilise tous les jours à faire ma vie. Mais j'ai moins une sensation, entre guillemets, poétique, c'est un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire.
Oui, bien sûr.
Artistique, entre guillemets, j'ai moins un accès à cette langue dans ce sens-là.
Alors, il y a comme une exception dans le disque, il y a une chanson, alors c'est en arabe, si j'ai bien compris.
Ouais.
Il y a une chanson en arabe avec une invitée de marque qui est Naïssam Jalal. Alors, on va l'écouter, mais avant de l'écouter, il y a plusieurs invités. Il y a Eric Truffat à la trompette sur un morceau qui s'appelle Betty.
Tali. Ouais, mais il y a tellement de prénoms
Tali,
en même temps.
Tali. Alors, pourquoi Eric Truffat ?
Alors, c'est pareil, c'était en échangeant avec Raph, il m'a proposé, il avait entendu le son d'Eric, parce qu'Eric, sur ces chansons-là, il joue sans embouchure, ce qui donne un son un peu de duduc, un truc...
Bah oui, un truc oriental, on peut le dire.
Et quand Raph m'a parlé de ça, déjà, moi, je suis une grande fan d'Eric depuis hyper longtemps, et je me suis dit, si ça fait sens avec la musique, si ça fait sens pour l'artiste aussi, c'était pas juste avoir un nom sur le disque, avec grand plaisir. Et puis ça s'est rejoint sur la... Je trouvais que c'est la seule chanson sur laquelle ça venait s'accorder.
Il a fait des concerts avec vous, non ?
Non, ça s'est pas fait du tout. Déjà, j'ai fait... sur le concert parisien, ça se mettait pas si bien, parce qu'il jouait pas très loin après...
Donc l'album est sorti le 8 novembre, vous avez fait un concert le début décembre au Café de la Danse.
Ouais.
J'ai eu la chance d'y être et c'était vrai. Bah, cet endroit, il est magique de toute façon.
Ouais, ouais, c'est une belle salle.
Il y a toujours un son superbe.
Ouais,
vous y avez joué, Hugo aussi.
Ouais, j'ai vu plein de concerts.
Non, il se passe toujours un truc. Et puis là, c'est vrai, c'était la fête et c'était très beau. Il y avait des beaux éclairages, un beau son.
Ouais, bah, alors le son, j'en parle parce que pareil, on a le même ingénieur du son avec Hugo, c'est Axel Pierman qui est un super ingé son.
Ouais, magnifique, magnifique.
Voilà.
Et alors, donc, il y a une chanson, cette chanson en arabe que nous allons écouter. Donc, vous avez invité Naïssam Jalal, magnifique flûtiste.
Ouais.
Et donc, vous la connaissiez déjà, Naïssam ?
Naïssam, je la connais parce que je l'avais invitée sur mon projet d'avant, Mahala. Et depuis, c'est devenu une amie. Et ça faisait encore plus sens de l'inviter, déjà parce que je faisais une chanson en arabe. Et aussi parce que je trouve que Naïssam, elle est complètement connectée à tous les temps, en fait. Voilà, quoi, le joue, il se passe quelque chose de très fort, très humain, très vrai, très authentique, et voilà.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, alors, Lama Bada, parce que c'est le titre de
Le titre,
cette
je ne sais plus ce qu'il veut dire. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une chanson qui parle, on pense que c'est surtout une histoire d'amour entre un homme et une femme, et c'est un homme qui déclame sa flamme à cette femme, mais... Comme c'est une chanson qui date du XIIe siècle, apparemment, c'était d'un homme à un homme. Et selon les versions, parce que c'est une chanson qui a voyagé dans le monde oriental, arabe, hein, selon les versions, ça montre aussi comment elle a évolué dans les époques.
Ben on va l'écouter, et puis vous allez voir que Naïssam Jalal, alors là, elle a un bel espace dans la chanson, quitte à l'inviter, elle n'est pas là pour rien.
Non.
Et non, elle est magnifique ce qu'elle
fait.
Pour
moi, c'est important. Ouais.
C'est une très belle chanson, et on retient facilement la mélodie, on a envie de la chantonner.
Hein, ouais,
elle reste dans la tête, elle est très belle. C'est parti avec Lama Bada.
Aligre FM 93.1.
C'était Lama Bada, donc on entend deux voix, c'est vous qui faites les deux voix.
Non, c'est Naïssam à la fin.
Ah, c'est Naïssam.
En fait, on enregistre en live et à la fin...
Qui a lâché la flûte et qui vous rejoint.
Elle a lâché la flûte,
elle chante très bien aussi.
Elle chante magnifiquement bien.
Elle est très aiguë. Ah oui. Bah, du coup, ça marche bien, ça fait une belle harmonie vocale entre vous deux. Là.
Bah, celle qui m'avait bien briefé pour la prononciation aussi...
Alors, avant qu'on parle de l'album de Hugh Coltman, je voudrais qu'on parle brièvement quand même de quelque chose qui vous tient à cœur, qui est une association qui s'appelle Femmes de la Terre, qui aide les femmes exilées. Et vous êtes très investie dans cette association.
Alors, je ne suis pas très investie, ce serait faux de dire ça, mais c'est une association qui me tient à cœur, que j'ai eu la chance de les rencontrer par le biais d'une autre personne. Et c'est vrai que j'ai été frappée à leur porte en leur disant voilà, j'ai envie de faire quelque chose, je ne sais pas quoi, je ne sais pas de quoi vous avez besoin. Finalement, ils ont eu besoin d'une autre partie de ce que je sais faire, qui est graphiste, com visuelle.
Ah bah oui.
Et puis de parler d'elles aussi. En fait, c'est vraiment. Elles sont souvent que deux, et c'est des juristes, et elles viennent aider toutes les femmes exilées avec tous leurs papiers, tout le. Voilà, tout ce qui est juridique, administratif, et il y a beaucoup aussi de femmes maltraitées dedans.
Bah, j'imagine.
Et c'est aussi un truc de quartier, et finalement, c'est des petites assos dont on ne parle pas, et tant mieux, parce qu'elles ont besoin aussi de cet anonymat pour pouvoir bien s'occuper des quelques femmes qui sont là. Mais voilà, je trouve que c'est des métiers et d'un investissement vraiment incroyable.
Je vous félicite. Puis vous pouvez les aider en organisant des concerts avec elles.
Bah, de toute façon, on est en lien.
Bah oui, c'est ça. Puisque l'album, il est vraiment en lien avec ça, en fait. Donc
mais
ça,
complètement.
Ça colle parfaitement bien.
Elles ont été
bien.
Très touchées par ça. Et c'est une super, c'est des super femmes, surtout.
Eh ben merci beaucoup, Sarah. Et puis on va passer à notre ami Hugh Coltman. Alors là, qui a fait un album. Alors c'est marrant parce que quelque part, votre album, il y a une introspection, Sarah, de votre famille, de votre milieu. Et chez Hugh, il y a une introspection aussi. C'est vraiment, il y a un travail intérieur, une espèce de bilan de la vie de Hugh Coltman qui atteint 50 ans, qui perd son papa, qui perd un ami cher et qui est un petit peu. Qui a besoin d'un seul coup de parler de ça en musique, c'est ça, non ?
Oui, c'était peut-être plus productif de parler au psy.
Mais c'est bien de faire un disque aussi.
Non, mais c'est vrai. Je crois que j'ai peut-être toujours eu une sensation, comment dire, pas d'être intouchable, c'est pas pour être le bonhomme qui tape sa poitrine, quoi, mais d'avoir une espèce de côté un peu ça arrive qu'aux autres et je crois qu'il y avait un moment ce n'était plus possible pour moi de faire comme avant en fait j'étais complètement
paralysé.
Paralysé.
Ouais, je comprends. Ouais.
Je prenais la guitare parce que quand on est autocompositeur, quand on est musicien, on est censé faire de la musique. Donc on fait un album, on met nos cœurs dedans, on met nos tripes dedans, on le joue, on fait une tournée, et puis après on fait un autre album. Sauf pour, moi, rien me venait.
Bah oui, c'est pas évident. Hein,
j'écrivais tout le temps, mais rien venait au niveau de musique. Donc c'est là où j'ai, quand on cite les noms, j'ai pu faire le disque précédent dont vous avez déjà parlé avec Mathis,
John,
Mathis Pascal.
Et guitariste et qui est très 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 doué, il faut le dire aussi.
Ouais, ouais, très 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 créatif, une énorme gamme de couleurs, un énorme vocabulaire musical. Et donc il m'avait dit, bah tu fais quoi en ce moment, tu prépares un autre disque? Je me dis, bah écoute, je tourne un peu les pouces, j'écris, mais et donc il y avait un ou deux idées de chansons. Et je dois dire que j'avais une espèce d'orgueil au début qui m'a un peu évité de dire, ouais, vas-y, on y fait, parce que moi, je vais toujours écrire mes chansons avant.
Ouais,
et donc,
sûr,
du coup,
ouais.
Tu te dis, mais non, mais j'écris mes
chansons. J'ai besoin de personne, ouais, c'est ça.
Oui, non, mais c'est complètement idiot.
Oui, bah oui.
Mais en fait, en ayant un peu plus de...
De bouteille.
De laisser quelqu'un, et de partage, en fait. De laisser quelqu'un dire...
Mais surtout,
dire,
vous entendez très bien.
Moi, j'ai ça, qu'est-ce que t'en penses?
Oui, vous entendez très
et
bien.
Et c'est vrai que nous, on a écrit la première... Le premier deux fois qu'on a rencontré, on a dû faire 5-6 chansons. Et ce n'est pas une blague. Vraiment, c'était dans une heure, une chanson était faite. Parce que j'avais des paroles. Lui, il avait des parties guitare. La mélodie se collait dessus. Et ça reste un peu comme ils sont sur l'album, avec quelques idées d'arrangement.
Non, mais vous fonctionnez très bien ensemble. Moi, je me suis permis de vous appeler Lennon McCartney ou Jagger Richards, comme ça, pour rigoler. Mais c'est vrai que vous formez vraiment un couple d'auteurs-compositeurs, tous les deux. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Sarah aussi, elle compose avec son guitariste.
Ouais.
Comme
quoi, c'est récent, par contre.
Oui, mais c'est bien de ne pas être tout seul, en fait. Ouais. Si on trouve quelqu'un avec qui ça marche et avec qui on gagne du temps et que les idées fusent et tout, c'est formidable.
Ce qui est intéressant pour lui aussi, parce qu'il a des chansons qu'il avait envie d'entendre une voix dessus, et moi je cherchais des chansons. Et puis par la suite, une fois que je commençais à être un peu emballé par cette idée, j'ai commencé à reprendre la guitare, et en fait ce blocage s'est un peu dissous peu à peu, et je me suis dit, tiens, oh, c'est pas mal ça. Là où avant j'aurais joué un duo, je pensais c'est nul.
Ouais.
Où il y avait des trucs qui me touchaient. La première chanson, c'est une chanson qui s'appelle Red T-shirt que j'avais écrit. Et c'était un truc où au milieu de la nuit, c'est un cliché, mais où j'arrivais pas à dormir, où j'arrivais pas à me rendormir. J'avais cette image dans la tête et je me disais, oh, juste envie de dormir. J'arrivais pas. Et donc finalement, j'y vais et j'écris la chanson, et c'était grâce à cette rencontre avec Mathis.
Et ben justement, on va écouter tout de suite Red T-shirt et on en parle après. C'est parti, Red T-shirt.
Sky was low and the clouds hung heavy. Well, the sky was low as the tide came in. Well, the rain fell soft, kind of rain that won't let up. Well, the rain fell soft, dripping from its red t-shirt. Well, its hands hung low, used to catch a football. Not so long ago, but oh so far away. I never mought a throw to hold or play on nurture. Soon dirt and memories covered up his red t-shirt. You can argue till your face goes blue by the color of a charity begins at home, seems to end there too, seems to end there too.
shook beneath you. Well, what would you do as black smoke filled the sky? Well, the chance you take on a bomb or a bullet or a small boat on the ocean, hope against hope in your eyes. Your face goes blue about the color of a passport and what to do. Charity begins at home, seems to end there too, seems to end there too. We hang our heads, we hang them so. Trips in the ocean, dripping from a red t-shirt. Just trips in the ocean, dripping from a red t-shirt. Just trips in the ocean, dripping from a red t-shirt.
Jazz sur Aligre FM avec Lionel Eskenazi.
Nous venons d'entendre Red T-shirt tiré de l'album Good Grief de Hugh Coltman. Et cette chanson, il s'agit vraiment de ce T-shirt rouge, il s'agit vraiment d'une tragédie humaine terrible qui s'est passée en 2015, d'un enfant kurde noyé qu'on a retrouvé sur des plages de Turquie. C'était un kurde de Syrie hein, qui avait essayé avec sa famille de voyager sur un petit bateau pneumatique et qui est mort noyé. On a retrouvé ce corps avec un t-shirt rouge. Il y a eu des photos qui ont circulé sur tous les réseaux et ça a créé une émotion terrible dans le monde entier.
Je crois que c'était loin d'être le premier, malheureusement,
la première
personne qui a décédé. Mais en fait,
et cette photo, elle a marqué, quoi. Hein,
absolument. Parce que je trouve, avec la visibilité et la facilité de transférer les images aujourd'hui, on devient de plus en plus désensibilisé aux images. Je me rappelle, pendant toutes les émissions qu'on voit sur la guerre d'Ukraine, on voit des cadavres, mais on voyait jamais ça avant. Donc, je sais pas, c'était vraiment une image qui m'a marqué. Et je crois que deux ou trois jours avant, j'avais vu ce film magnifique, Les Nageuses.
Oui.
Je sais pas, ça ressortit ces sensations. Bah, si c'était mes enfants, quoi. On peut catégoriser les gens, ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui. Lui, il a des papiers, lui, il a pas des papiers, mais c'est plus facile de traiter ces dossiers si on ne considère pas comme les êtres humains, comme nous, quoi, comme mes enfants.
Bien sûr, bien sûr. Et donc, je précise que là aussi, il y a un très, très beau clip. Alors, allez sur Internet hein, pour regarder les clips de Sarah Lenka et aussi les clips de Hugh Coltman. Et là, c'est un clip d'animation qui a été fait avec beaucoup de tact, parce que c'est une tragédie. Et le clip, il est très poétique, très lyrique. C'est une belle histoire. Il arrive à faire quelque chose de beau sur cette tragédie. Quoi.
Ce qu'ils ont pu faire, c'était prendre l'essentiel de la chanson, qui est la sensation de d'impuissance face à ces choses-là. Ouais. Et il a rendu ça peut-être moins dramatique, mais tout aussi touchant, j'espère. Mais sans aller dans quelque chose, il y a du pudeur dans le clip.
Absolument,
j'étais très content que c'était le cas.
Et beaucoup d'idées, parce qu'il y a cette métaphore du poisson rouge dans le bocal qui fait penser bien sûr à cet enfant avec son t-shirt rouge. Enfin, il y a plein d'idées comme ça qui sont vraiment très belles. Et bravo aux réalisateurs. On va citer leur nom peut-être.
Oui, donc c'est Sylvain et Anne Royon et Sylvain, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Qui est horrible, quelle horreur.
C'est pas grave, Laure, mais c'est pas grave. Bon, bah écoute, super. Alors, je voulais qu'on parle, donc il y a 10 chansons. Alors, on est vraiment dans un univers, moi, que j'appellerais folk blues, mais bon, ça vous va, ça?
Oui, c'est teinté d'Americana,
on pense à des grands songwriters, c'est vraiment des chansons et des songwriters, on pense à Neil Young, à Tom Waits, à des gens comme ça, quoi. C'est des belles références.
Mais c'est vrai,
parce qu'il y a, le texte est soigné avec la musique, enfin, il y a des correspondances entre la musique et le texte qui font que c'est ça le talent des songwriters, et c'est ça qu'on aime. Hein.
J'aime bien avoir l'idée, et c'est un peu prétentieux à m'en le dire, mais je vais le dire quand même, qu'une fois que tu as cette sensation d'avoir cette idée ou cette chanson, que c'est « oh là, ça c'est bien », j'ai la prétention, en tout cas j'ai l'espérance que dans 10 ans, on peut la réécouter. C'est pas quelque chose qui va marquer un ton.
Absolument, oui.
C'est une mélodie ou une idée ou une partie de son qui restera écoutable. On va pas dire, OK, bah, ça, c'est années 90 ou années 60.
Non, regardez Harvest de Neil Young, on l'écoute toujours.
Bah oui, absolument.
Ça a 50 ans.
Oui, c'est fabuleux.
Donc, c'est un peu la même équipe que l'album précédent sur Dr. John, hein, Mathis Pascoe, Laurent Verneret à la contrebasse et Raphaël Chassin.
Oui, c'était
à la
pas
batterie.
Laurent sur l'album sur
d'accord,
Dr. John,
okay.
c'était Pierre Elgrichy, mais.
Oui, d'accord. Bon.
Le même école, en tout cas.
Ouais, même école. Et alors, vous avez enregistré ça au Manoir de la Frette. Dans la Bièvre.
Exactement.
Alors, c'est un endroit étonnant, ça.
C'est un endroit que j'avais découvert. Tout d'abord, Raphaël avait enregistré là assez souvent. Donc, c'est lui qui m'en avait parlé. Mais c'est aussi... je suis un grand fan d'une artiste canadienne qui s'appelle Feist, qui avait enregistré un album là-bas. Il s'était filmé. Il y avait Gonzalez au piano. Il y a Moki avec des percussions. Et c'est un superbe disque. On est dans un petit manoir avec un petit terrain autour.
Oui, c'est très beau. J'ai vu des photos.
Et on ferme les portes.
C'est un château quand même. Hein.
Oui, et on ferme les portes et on ne sort pas.
D'accord. Ouais, ouais.
Donc, moi, c'était important pour ce disque parce que c'était comme ça que j'avais écrit. Moi, j'ai beaucoup des textes. J'avais écrit chez un ami qui a une maison dans les montagnes. Et en fait, même, je trouvais ça gênant une fois que le disque était sorti parce que tu dis, ah, les gens vont quand même écouter ça. Parce que ce sont les chansons. L'idée de la chanson, c'est une idée qui tourne dans la tête. Puis d'un moment, j'étais tout seul dans cette baraque. Donc tu creuses, tu sors tes tripes et tu les écris, mais c'est toi tout seul. Mais finalement, c'est pas que toi tout seul, espérant qu'il écoute le disque. Donc,
ouais, bien sûr. On va écouter, si vous voulez bien, Hear No Evil. Et peut-être vous pouvez nous dire de quoi ça parle rapidement avant de l'écouter.
Ça parle d'une envie de s'aveugler. En fait, de se rendre, c'est comme les trois singes.
On fait la sourde oreille.
Oh, exactement. oui.
Eh ben alors, Hear No Evil.
In the saddest glow, I know something which I didn't know. Wind is blowing shit around my feet. Head was doing just the same to me. Shoes were empty and my chest was full. My heart was thumping like a raging bull. Heart was thumping like a raging bull. Trouble to the pawn shop man.
lined them up and put them on his stand. Put them in the window as you turn to go. Everybody gotta make a buck somehow. A favor, don't look back around. Don't hear nothing, and my eyes are blind. Hear no evil if you don't hear mine. Hear no evil if you don't hear
Hear No Evil de Hugh Coltman, tiré de l'album Good Grief. Très très belle chanson. J'aimerais donc avoir l'avis de Sarah Lenka sur ce projet de Hugh Coltman.
Bah, déjà, moi je suis fan de Hugh depuis super longtemps, c'est vrai. Et je trouve qu'il a, moi, il a une voix qui me touche beaucoup. C'est comme une voix assez intemporelle et qui vient tout de suite au bon endroit. Moi, j'aime les choses authentiques.
Bien sûr, ouais.
Et en plus, ce que j'aime dans leur musique aussi, c'est qu'ils ont une identité très marquée, tous, qu'on entend très bien. Et ça groove, c'est beau, c'est intemporel et je trouve ça vachement bien. Ouais, vraiment.
Puis il a des bons musiciens aussi.
Non, mais ça va au-delà d'être bon musicien. Je pense que c'est des gens qui ont des choses à dire, ouais. Qui ont des belles textures.
Il y a une sincérité. Comme vous, Sarah, il y a une sincérité.
Je trouve que ça s'entend très vite quand
nous,
quelque chose.
Nous, les journalistes, ouais. Si on repère un des disques où on sent de la sincérité, ben, ça nous touche forcément. Parce que pourquoi faire de la musique si on n'est pas sincère? Ça sert à rien.
Absolument. C'est pour ça aussi que j'avais du mal à avancer avec le disque. Ouais, je me suis dit pourquoi en faire un autre, quoi, pour rajouter au.
Alors, Sarah, juste rapidement, j'aimerais que vous nous donniez des dates de concert.
Alors, le 7 février, je suis aux Arcades à Lille. Et le 12 février, je suis au Trianon pour le festival Au fil des voix.
Ah,
c'est leur soirée
super.
De clôture.
Ah, super.
Il y aura trois
magnifique.
Autres artistes et c'est une grande soirée.
Ah,
donc voilà, je fais vite, mais je m'arrête
et
à février.
Et rapidement, quelques dates de concert.
Donc, le 1er février à Brétigny-sur-Orge. Le 2 au 6, on est en Allemagne. Le 8... on est à Thonon-les-Bains, Attends, je suis en train de regarder mon téléphone pendant qu'on parle. Le 12 février, on est à Senon. Et le 13, on est à Sceaux.
Bon, bah super, très belle tournée. Alors, merci à vous deux.
Et le 7, si je peux très très vite, le 7, j'ai la chance d'avoir enregistré sur le disque de magnifique organiste Rhoda Scott.
Oui, deux et chansons superbes, dont un Stardust mémorable.
Bon, merci.
Et on joue le 7. Le 7 au Château.
Le 7 au Château. Ouais.
Donc merci à vous deux d'être venus dans Jazzland. Merci à Armand et à Damien et à toute l'équipe des techniciens de Radio Aligre. Merci à Madeleine et Salomon pour le générique et les jingles. Je vous retrouverai dans ce micro dans 15 jours. Mais en attendant, vous retrouverez mon camarade Jean-Marc Gélin samedi prochain pour un nouvel épisode de Jazzland. Après cette émission, place à l'émission Lusitania sur Aligre FM. Mais en attendant, on se quitte avec un dernier extrait de l'album de Hugh Coltmann qui s'intitule Middle Crisis.
Crisis, don't look down on me. Midlife crisis.